à tous nos auditeurs. Bonjour Christine et bonjour mon père. Merci de nous accompagner aujourd'hui à la technique. Voilà, je voulais juste reparler un petit peu de notre émission du mois dernier. Bonjour Jérusalem, bien entendu, où nous avons abordé le Sodome et Gomorre. Voilà un sujet qui est bien sûr connu et sans être vraiment connu, puisque on ne sait pas tout. Et donc Christine nous a appris des choses extrêmement intéressantes. Elle a même cité la Genèse, donc pour mieux le situer, la situation. Alors, Dieu fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorre, du soufre et du feu, etc., etc. C'est pas le sujet de notre émission aujourd'hui. Mais Christine nous a donné une explication tout à fait scientifique à cet événement. Et donc à expliquer la cause de cet état de fait que nous connaissons depuis la Bible. Voilà, la cause donc en a été la chute d'une météorite dégageant une température de plus de 2500 degrés Celsius. Voilà, et qui, alors imaginons ce qui peut rester après 2500 Celsius. Voilà, on a constaté la même chose en Russie. Donc voilà, on a exactement des réponses scientifiques aujourd'hui. Ensuite, nous avons parlé d'un autre sujet. Il était question du site agricole au sud de Tel Aviv, où il y a environ 1500 ans, on produisait jusqu'à 2 millions de litres de vin, donc 20 000 hectolitres, c'est quand même énorme. Hein. Il y a 5 pressoirs de l'ère byzantine trouvés à cet endroit-là, qui en sont les preuves. Donc, et ensuite, l'autre sujet était Daniel Sasson, un juif irakien qui était donc un sujet bien brûlant et douloureux en même temps de l'émission, qui a survécu à un moment dramatique dans la vie de la population juive en Irak, qu'il voulait impérativement faire connaître aux gens. Il en a parlé effectivement et il parlait de ce premier et heureusement du dernier ghetto en Irak. Donc, et maintenant, je vais peut-être laisser le micro à Christine, qui va aborder d'autres sujets, bien entendu. Alors, quel sera notre sujet, Christine, aujourd'hui ?
Bon, en tous les cas, tout d'abord, merci Elisabeth pour ce bref rappel relatif à l'histoire de Juifs. On a parlé de la journée qui s'appelle le Faroud et qui est un tournant pour la vie juive en Irak où il y a eu 200 juifs massacrés, des milliers de blessés, des femmes violées, etc., des propriétés pillées, etc., etc. Donc c'était un moment charnière dans l'histoire juive du pays.
Qu'il faut savoir. Qu'il faut pas oublier, malheureusement. Voilà. Il n'y avait pas qu'en Europe.
Voilà,
c'est pas nouveau.
Il
y a beaucoup de choses pour lesquelles on accable beaucoup les Européens. Des ventes des esclaves.
C'est pas nouveau, mais ça existe encore, malheureusement. Il faut savoir que
ça a commencé par les Arabes.
Qui vendaient des esclaves de guerre.
Quelquefois, ils vont mieux mettre les choses au point.
Voilà. Bon, alors, là maintenant, je vais vous parler d'un sujet que moi j'ai trouvé très intéressant. Il s'agit en fait de la grandeur et de la décadence de Robert Maxwell.
Robert Maxwell, voilà.
Je pense qu'on connaît bien.
On connaît le Maxwell, le café, mais je ne pense pas que ça soit...
Non, pas du tout.
non, malheureusement. J'essaye d'alléger la situation parce que c'est toujours assez tragique. Donc,
voilà. C'est une situation, c'est la vie, il faut voir. Je vous la raconterai. Alors, on va parler de Robert Maxwell qui, je vous laisse la parole.
Alors, avant toute chose, qu'est-ce qu'on doit savoir de lui ? C'est un Britannique, peut-être ? Non,
voilà, c'est ça ? Alors, ce Robert Maxwell est avant tout, c'est pas l'auteur, mais c'est l'un des plus grands manias de la presse, juive, je ne dis pas qui a sévi, mais en quelque sorte, qui aurait sévi dans la région, mais qui est devenu très riche et très pauvre, mais qui a une fin très malheureuse. Voilà. Bon.
Alors donc, en fait, c'est l'histoire de l'ascension.
C'est, voilà.
Et la chute brutale de cet homme-là, voilà.
Tout à fait. Alors,
qui a donc qui était raconté par un livre,
ouais.
Écrit par John Preston.
Tout à fait.
Et voilà. Donc c'est. Voilà. C'est
Et qui s'appelle tout simplement The Mystery of Robert Maxwell. Mm-hmm. Donc c'est.
Alors racontez-nous un petit peu. Qu'est-ce, alors, qu'est-ce qu'il faut en savoir? Qu'est-ce qu'on devrait connaître?
Alors Preston a osé lever le voile sur cette fameuse vie qu'on appelle une vie extraordinaire de Robert Maxwell, qui fut un très grand patron de presse. Donc l'histoire. En elle-même, ça parle de l'ascension et de la chute brutale de Maxwell, qui est bien sûr au cœur de l'ouvrage britannique, écrit brillamment par John Preston, et absolument passionnant. Ça ressemble un peu à un drame shakespearien.
Mmh, tout à fait. Alors, racontez-nous un petit peu.
Alors, dans le yacht de 4 étages de Robert Maxwell, Maxwell, qui était amarré à New York au début du mois de mars 1995. L'homme semblait être bien sûr au sommet de son pouvoir et de son influence.
Alors, connaissait-on à ce moment-là la puissance financière de cet homme et sa richesse?
Oui, bien sûr. Hein, il était tout à fait estimé entre 1 et 2 milliards de dollars et se trouvait en sa qualité, donc ce Robert Maxwell, en sa qualité de patron de presse britannique à New York pour conclure définitivement à ce moment-là l'achat d'un des plus vieux tabloïds américains, le New York Daily News, réalisant ainsi le rêve de se hisser enfin à la hauteur de son rival de toujours, Rupert Murdoch, que tout le monde connaît évidemment, alors à la tête d'un empire médiatique.
C'est donc pour cela qu'à cette occasion et au cours des jours et des semaines qui ont suivi, qu'il avait savouré chaque moment de ce triomphe à bord de son bateau qui s'appelait Lady Ghislaine ou Ghislaine.
C'est Ghislaine, normalement c'est le prénom de sa fille aînée. Ah. Alors il y avait, on y reviendra un peu plus tard, mais il y avait bien sûr des soirées de prestige avec des personnalités diverses qui participaient à cette réunion. Et à ce moment-là, quelques mois après, Maxwell tombe du pont de son yacht dans des circonstances assez mystérieuses. Son empire de presse, bien sûr, s'était alors rapidement effondré sous le poids d'un endettement terrible. Sa réputation avait été salie à jamais par la révélation que, dans un effort désespéré visant à tenir à distance les banquiers, il avait volé des millions de fonds de pension de ces entreprises.
Ah oui, et il faut savoir, cela voulait dire que ces gens-là qui ont cotisé toute leur vie, il s'agissait des ouvriers, hein,
ouais.
Qui ont cotisé, ils se sont retrouvés vieux, démunis.
Démunis complètement, volés. Voilà.
Oui, parce que hein, c'est pas le même système que nous avons la chance d'avoir ici.
Voilà. Bon, c'est vrai que dans son livre, Preston indique qu'il était difficile de trouver.
Alors, effectivement, Preston, comme il le décrit, était cette personne, Maxwell, était extrêmement surprenant puisque vraiment, il est allé très loin de ses origines et de ses racines. Ça, c'est vrai.
Ouais. Bien vrai, d'autant.
Alors, qu'est-ce qu'on en sait? Il est né où alors?
Dans une petite ville de Solodvino, province de Ruthénie, qui faisait alors partie de la Tchécoslovaquie, en juin 1923. Ouais. Il fut le premier des 9 enfants du couple Mehl et Chanka Ok, que l'antisémitisme était omniprésent. C'est-à-dire que la famille vivait misérablement dans une bicoque en bois de 2 pièces avec un trou qui faisait office de toilette. Ce qu'on a trouvé beaucoup, ce qui existait beaucoup à cette époque, pendant l'hiver, les enfants, il y avait 2 enfants qui se partageaient une seule paire de chaussures.
Et oui, voilà, ça c'était la pauvreté qui régnait dans l'ancien empire austro-hongrois. N'oublions pas la Ruthénie. J'avais dans l'endroit où je suis née, il y avait des Ruthènes qui vivaient.
Un peu pour tout, même en Israël, je veux dire, c'était pauvre.
Au traité de Versailles, on a redécoupé l'Empire.
Oui.
Eh bien, ils ont donné un bout à la Slovaquie. On se demande d'où, pourquoi la Slovaquie, un pays qui n'a jamais existé avant.
Donc, puis d'un seul coup, ils se retrouvent.
Brutalement, bref, la Ruthénie s'est retrouvée sous domination slovaque.
Ouais.
Enfin, voilà. Alors, ce sont donc des mensonges et des demi-vérités ou des exagérations, nous savons de lui.
Écoutez, on ne sait pas, mais on sait que l'enfance et l'adolescence de Maxwell restent tout de même mystérieuses. L'animateur Michael Parkinson devait remarquer, donc un animateur radio, que presque un demi-siècle plus tard, le mystère vient soutenir la théorie que souvent la vérité est plus exotique encore que ne l'est la fiction. Alors. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, cet exotisme présumé doit beaucoup au penchant qu'avait toujours nourri Maxwell pour les mensonges, les demi-vérités et les exagérations. Et oui. Donc c'était quelque chose qu'il appréciait et il en faisait son commerce.
C'est toujours facile de raconter des histoires quand d'un pays qui n'existe plus, et qui ne se trouve plus là.
Il lui fallait une vérité bien à lui pour justifier le fait qu'il prenait l'argent là où...
Effectivement. Parce que dans le livre... de Preston, on lit qu'après avoir fui Solotwino, par exemple, l'adolescent avait rejoint la résistance anti-nazie. Ça, c'était, il fallait être anti-nazie. Bon, alors, on l'était pas, personne ne pouvait.
Oui, mais là, il avait trouvé sa voie, en quelque sorte, elle l'arrangeait bien, quoi.
On se demande s'il l'a vraiment été. En tout cas, c'était...
On verra plus loin.
Personne ne pouvait le vérifier. Ouais. Hein. Donc, ensuite, il était capturé, accusé d'espionnage, condamné même à mort... tout en racontant plus tard qu'il était parvenu à s'échapper assez facilement après avoir eu le dessus sur un gardien manchot. C'est bizarre. Un gardien manchot qui l'accompagnait à une audience devant le tribunal. Il était caché sous un pont, racontait-il, d'autres fois, et qu'il avait été aidé par une gitane qui lui avait ôté ses menottes.
Ah, tout à fait. C'est très... c'est romanesque. Ah, ça oui, fait penser à de l'Arsène Lupin.
Oui, tout à fait. Voilà. Pourquoi pas Houdini, quand même.
Mais presque Houdini, parce qu'il avait réussi malgré...
Effectivement.
Voilà. On sait, mais bien sûr, plus connu bien sûr sous le nom de Hock, il fait des études dans une yeshiva de Bratislava. Ouais. Quand les nazis envahissent la Tchécoslovaquie en mars 1939, avant de livrer la Ruthénie à leurs alliés hongrois. Tu dois connaître cette histoire.
Tout à fait, mais il y avait un tel mélange. Vous savez, quelqu'un qui est né dans l'Empire austro-hongrois pouvait posséder à peu près 12 ou 14 nationalités. Ça dépendait quelle partie tu allais.
Voilà.
Oui, c'est très...
C'était bien organisé, finalement.
C'est-à-dire que c'était un pays qui était solide, et c'était vraiment... Mais malheureusement, l'Occident n'avait qu'une idée, c'est de le détruire, cet empire. Et alors il ne faut pas s'étonner de ce qui est arrivé, Deuxième Guerre mondiale, Hitler, le nazisme, etc. Je crois que sans avoir détruit à la fin de la Première Guerre mondiale, cet empire-là, l'Europe ne se serait pas retrouvée dans la même situation.
D'accord. Et ça peut être intéressant d'en savoir un peu plus sur cette période-là.
Oui. Alors donc, qu'est-ce qu'il a fait donc qui sait ?
Alors, il avait fait couper donc ses papillotes, une rupture absolument symbolique avec le judaïsme, qui ne devait jamais se séparer pendant plus de 4 décennies, et avait donc quitté 3 mois plus tard Solotwino.
Donc en fait, ses papillotes, il les a gardés dans la poche, enfin.
Voilà, parce qu'il les a retrouvés après vers la fin
Exactement.
De sa vie.
Oui, alors on apprend également qu'il ne devait jamais revoir sa mère, son père, son grand-père, ses 3 sœurs, non plus son jeune frère, qui devaient tous, hélas, mourir à Auschwitz. À l'exception d'un seul, sa fuite et la destinée réservée à sa famille devaient certainement hanter Maxwell pendant le reste de sa vie.
Oui, et c'est quelque chose dont il n'a jamais pu assumer véritablement.
Ça ne doit pas être facile l'opulence où il vivait.
Oui, savoir c'était une revanche sur ce qui s'était passé au niveau...
Voilà, on comment sa famille a disparu.
Voilà. Alors, aussi intriguant qu'il soit, ce récit soulève tout de même un certain nombre de questions, indépendamment de la surcharge de travail imposée au service des prisons hongroises. Il semble étrange quand même qu'un seul gardien manchot de surcroît fût affecté à la surveillance du dit prisonnier Maxwell.
Je peux vous assurer que ça ne pouvait pas exister parce qu'il y a des lois. Comme par exemple un enseignant ne pouvait pas avoir des défauts de langage, un prêtre ne pouvait pas devenir prêtre s'il ne chantait pas juste, oui. Etc. Il y avait des lois.
Il y avait des lois qu'on ne pouvait pas faire autrement, qu'ils étaient obligés de suivre. Quoi,
un manchot ne pouvait pas être en uniforme, déjà, c'est pas possible.
Non, mais ça prouve quand même qu'il y avait un certain contexte incroyable dans cette ville-là, dans ce moment-là.
Mais, oui. Hein, enfin, je pense qu'il n'a pas bien étudié la question, parce qu'il aura fallu qu'il se renseigne. Enfin,
voilà. À partir
cela,
de là...
Cela n'a rien ôté à l'héroïsme authentique dont il avait fait preuve pendant la guerre, parce que ça, apparemment, c'est quand même prouvé.
Oui, alors c'est sûr que.
Alors, il y avait une occasion. Par exemple, il a tué de sang-froid le maire d'une ville allemande, quand même. Hein, c'est ça, non? Pour étoffer toute résistance.
Il avait créé ses propres mythes. Et l'une des raisons expliquant la création de ces fameux mythes, c'est qu'ils ont pu servir d'écran de fumée derrière lequel il s'est toujours dissimulé. Donc ça l'arrangeait bien quelquefois de raconter un peu de tout et n'importe quoi. Ah bon. Surtout des actes qui ne valaient en rien. L'héroïsme étant authentique qu'on a pu lui
attribuer, hein. Bien sûr. Voilà. Alors, on dépeint aussi Maxwell possédant un flair naturel pour le subterfuge.
Voilà.
Alors, raconte un peu. Qu'est-ce qui s'est passé quand il avait 23 ans?
Alors, il avait déjà changé d'identité au moins 4 fois. Ah. Il parlait couramment le français, l'allemand, l'anglais, le tchèque, le roumain et le yiddish. Mm-hmm. Il était très apprécié de ses supérieurs qui, à l'époque, n'oublions pas,
après la fin de la guerre.
Absolument. Alors, et donc après la fin de la guerre, il avait été renvoyé en Allemagne et sur les ruines de Berlin, il avait mené des missions d'espionnage pour le compte des services de renseignement britanniques.
Ah, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en Grande-Bretagne. Bon, voilà, je crois que c'est quand même assez étonnant cette histoire. On va peut-être passer une petite pause musicale pour changer avant d'attaquer peut-être une autre partie du sujet.
Voilà.
Drei Kinder mehr haben, sind es teuer auf der ganzen Welt. Teure ist die beste Scheure, so hat der Rebbe mit uns geknallt. Hoi, 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 freilich Kinder aus der Endlich fand von alle Zeck, Freilach von Nane. Oi, Gott, ich bin der Narren Jiewe und es tat mir gut der Moi. Simches teure Sinn, ich liebe, mache gute Geuße, oi. Oi, 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 Freilach, Kinder, hat besäu. Endlich fand von alle Zeck, Freilach von Nane. Und Tag hat sie, fäll dir Sorgen aus dem Kopf, da wie wir's vorher schämen sehen.
Du Beure, gib mir noch ein Gläser von dem Jantiv dicken Wein. Was hast du herabgelost, das Gläser, ruf meine Sein im Tattner rein.
Oi, 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 oi,
oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. On retrouve le sujet de notre émission sur la décadence de Maxwell, puisque la grandeur, on l'a... On le verra aussi, voilà.
Oui, on verra, on verra la grandeur les deux, et surtout la décadence, on la verra bien. Mais ce qui est important, c'est la grandeur, comment il est arrivé à cet état-là.
On sait qu'il avait... qu'il était un empereur du Midi. Exactement.
Alors, par le biais de son travail, avec les forces britanniques occupantes, bien sûr, Maxwell avait rencontré Ferdinand Springer, propriétaire de la maison d'édition Springer-Verlag, qui était la plus importante maison d'édition de livres et de journaux scientifiques dans le monde.
Ah oui. Alors, ouais, comme il y avait à l'époque un public avide d'ouvrages universitaires internationaux, autant d'ouvrages dont Maxwell avait été privé pendant la guerre, cela avait été sa chance.
Et oui, et on en a profité. On dit par ailleurs que le malheur de la maison Springer était dû au fait que les citoyens allemands avaient l'interdiction absolue de procéder à des livraisons à l'étranger, ce qui a permis bien sûr à Maxwell de s'assurer les droits de la distribution dans le monde entier.
Qui a financé cette organisation logistique massive à l'époque ? Je suppose que cela devait être une sacrée organisation, hein, n'est-ce pas ?
Oui, on imagine un peu. Hein. Oui, bien sûr, car après avoir acquis ses droits de distribution dans le monde, de cette multitude de livres en attente, Maxwell, alors âgé seulement de 24 ans, avait organisé leur transport vers Londres par chemin de fer et par camion.
En tout cas, avoir son âge, il faut reconnaître, c'était très certainement un homme extrêmement intelligent.
Oui, ça, on ne va pas lui retirer cette
avoir
faculté.
D'avoir réussi à organiser cette énorme organisation.
Mais il y avait tout un domaine qui le poussait justement
bien
à réussir.
Oui, mais enfin, il fallait y penser.
Il fallait y penser, voilà. Ouais, c'est bien.
Alors, il avait de l'argent ou...
Je ne sais pas, à vrai dire. On suppose que les liquidités nécessaires ont été fournies en grande partie par les services secrets britanniques, bien sûr. Et comme un responsable des services de renseignement l'indique lui-même, après la mort de Maxwell, cela avait été la seule et unique fois que le M16, c'est le service secret britannique, avait agi ainsi pour un entrepreneur. Toutefois, cela ne devait pas être la dernière occasion où les liens de Maxwell avec les services secrets devaient être utiles et surtout profitables.
Exactement. Effectivement, il devait avoir un réseau énorme connaissances à tous les niveaux en Europe.
Voilà.
Et puis plus tard, au-delà des mers.
Au-delà des mers.
Alors, pendant toutes ces années, des années 50, le réseau commercial de Maxwell et son entreprise Amiral Pergamon Press avaient prospéré et s'étaient considérablement développés.
Tout à fait, tout à fait. Alors, pendant les termes employés par Preston révèlent quand même que la propension de Maxwell à utiliser les coups bas, entre guillemets, bien sûr, on parle de coups bas, est déjà très évidente. Par exemple, en 1955, il avait été révélé qu'il avait procédé au démembrement des actifs de l'une de ses entreprises principales en transférant et en utilisant les prêts auxquels il avait souscrit en son nom pour renforcer d'autres sociétés de son empire naissant, ce qui avait amené des créanciers furieux à entrer en contact avec le service des faillites du Royaume-Uni. Donc, ça veut dire qu'il utilisait de l'argent bien mal acquis pour en faire des choses encore mal acquises.
Absolument.
Donc, c'était sa façon de
oui, d'opérer, quoi.
D'opérer et puis d'avoir un maximum d'influence.
Hein. Voilà. Et en même temps, donc, comme souvent, un peu comme les chiens qui ont, quand ils ont peur de quelqu'un, ils les mordent, parce qu'il avait la crainte et en même temps la haine qu'il vouait à cet establishment britannique auquel il n'avait de prime abord pas d'accès.
Ce qui ne l'a pas empêché alors de se lancer avec toutes ses affaires dans une carrière politique. Il faut savoir qu'en 1960, Maxwell vivait au Eddington Hill Hall, dans une demeure de style italien, située près d'Oxford avec sa femme Betty, une Française d'origine protestante, épousée en 1945, qui avait donné naissance au 9e et au dernier enfant du couple, cette fameuse Ghislaine.
Ah voilà, c'est ça. Sa carrière politique ne devait pas être très heureuse, si
Non, pas vraiment, parce qu'il a été élu député travailliste en 1964, ce qui est un siège marginal de Buckingham, qu'il a perdu en 1966. Donc sa carrière fut brève et très peu illustre. Ce monde infidèle et élitiste, fidèle à la tradition de Westminster, s'étant révélé inconfortable pour un tempérament ombrageux, flamboyant et avide de reconnaissance, ce qui lui manquait en définitive, c'était ça, d'être la reconnaissance des peuples. Il avait échoué à le reconquérir.
Ah, voilà. Donc il a réessayé.
Oui, en 1974, il a...
Sans succès, alors.
Voilà, sans succès.
Donc on peut considérer ça comme un échec politique.
Ah oui, en effet. En plus de ce cuisant échec, la tragédie au sein de sa famille va encore frapper. En effet, deux tragédies vont endeuiller Maxwell. En 1957, le couple avait perdu sa petite fille de 3 ans des suites d'une leucémie. 4 ans plus tard, c'est l'aîné de la famille, Michael, qui avait été grièvement blessé dans un accident de la route. Et en restant dans le coma, s'est éteint au début de l'année 1968.
Ah oui, c'est épouvantable. Ça, ouais. Vraiment. C'est un accident, a été vraiment une épreuve épouvantable pour la famille.
Ah oui, puisque c'est le triomphe et le désastre qui suivirent devaient toujours être les deux éléments facilement appelés à se conjuguer. C'est-à-dire, il y avait d'un côté, il y avait le triomphe, l'accès à la célébrité, à l'argent, voilà, à la fortune, et d'un autre côté, il y avait ce drame.
Bon, alors, peut-être avant de répondre à des interrogations qu'on se pose encore, voulez-vous, Christine, que nous fassions une nouvelle petite pause musicale, quelques notes, pas trop longues, hein,
non.
Et nous reprendrons le cours de notre conversation, oui. Bonjour Jérusalem, dans notre émission, sur la grandeur et la décadence de Robert Maxwell.
Tout à fait, allons-y.
Voilà. Voilà, on reprend notre discussion autour de Maxwell dans les studios de Radio Grand Ciel. Alors Christine, je vous laisse la parole. Que s'est-il passé après qu'il ait été battu aux élections de nouveau et qu'il ait vécu tous ces malheurs
familiaux.
Familiaux,
oui, voilà.
Effectivement.
Bon, suite à la au
choc. C'est un choc émotionnel, forcément.
Oui, ça fut un énorme choc émotionnel pour Maxwell, lequel s'est détaché de sa femme et de ses autres enfants. Cela a laissé planer un nuage qui ne s'est jamais dissipé et comme il ne savait plus rien refuser à sa fille aînée, c'est-à-dire la Ghislaine, il l'a gâtée outrageusement. Alors, elle n'est pas aînée, hein, sa fille Ghislaine, hein, c'est la dernière.
Sa petite dernière,
ouais,
voilà.
C'est la toute dernière, hein, c'est sa fille, la dernière fille qu'il a eue. Il l'a gâtée outrageusement, faisant d'elle, bien sûr, sa préférée.
Ah oui, en octobre, d'où le nom, d'où son nom.
Le nom du bateau.
Du bateau, ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, en octobre 1969, et sans plus de cérémonie, on apprend qu'il est exclu du conseil d'administration de la société Pergamon Press après la conclusion d'un accord lucratif avec Saul Steinberg, le plus jeune multimillionnaire et self-made man américain.
Oui, et là, ce fut encore un. Là, ce fut, hélas, pour ce jeune milliardaire, un échec cuisant. Il avait découvert que Maxwell gonflait mensongèrement ses profits en s'engageant dans des pratiques de comptabilité s'apparentant à des tours de passe-passe, ce qu'on appelle la cavalerie des sociétés. Voilà.
Exactement.
Une fois encore, il avait utilisé une partie de son empire pour renflouer une autre.
Ah non, voilà, c'est ça. Ah, c'était une pratique, ne le gênait nullement, puisqu'il l'utilisait tout le temps. Et encore,
bien sûr,
hein.
Oui, et bien sûr, il ressort bien sûr d'un rapport du gouvernement établi sur cette débâcle, que Maxwell n'est pas une personnalité fiable pour diriger de manière appropriée une compagnie côté.
À la bourse, oui, c'est ça,
ouais,
effectivement.
Voilà.
Alors, quelle était la réponse de l'homme d'affaires?
Alors, l'homme d'affaires affirmait faire l'objet d'une chasse aux sorcières de la City,
oui.
Qui s'avérait bien sûr peu convaincante. Il disait qu'il était soi-disant tombé à terre à cause de cette fameuse chasse aux sorcières. Ce ne fut pas pour longtemps, car 5 ans après, il reprenait le contrôle de Pergamon Press.
Alors, peut-être, la prochaine, avant de démarrer la prochaine fois, je vous referai. Juste
un petit récapitulatif.
Voilà. Exactement. Au revoir et à bientôt sur Radio Grand Ciel pour une autre émission. Bonjour,
bonjour Jérusalem. The other.
Thank you.